Alors, nous tournons dans Jacques chapitre 4, verset 3, où il est dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alors, c'est un texte ici que je vais prendre pour un peu commencer cette série sur la prière. Il y a beaucoup de versets dans la parole de Dieu où l'on parle de la prière. J'aurais pu en choisir d'autres. Mais vraiment, celui-là m'a sauté aux yeux, « Vous demandez et vous ne recevez pas. » Et ce matin, la première série, le premier volet va s'intituler « 14 raisons de prier ». On va probablement passer quelques dimanches sur justement le volet de la prière. Et commencer l'année avec quelque chose qui est très important à mes yeux pour l'Église puis pour notre vie personnelle. Et justement, c'est la prière. Je regardais comment, dans un film récemment, je regardais comment l'armée américaine, on les appelle les Navy SEALs, l'armée de mer, où leur base, une des leurs bases est en Floride. Et comment qu'il y avait un entraînement pour ces gens-là, un des entraînements les plus durs au monde pour ces guerriers-là, pour l'armée, pour ces soldats-là qui veulent faire partie de la Navy SEALs. Et comment qu'ils devaient s'entraîner pour pouvoir éventuellement être capable d'aller au front, de faire la guerre. Et je me disais qu'en tant qu'Église, en tant que croyants, nous devons faire ce genre d'entraînement pour notre marche chrétienne. Et comment qu'on doit s'entraîner, comment qu'on doit, d'une certaine façon, se tenir dans les choses de Dieu, et une des principales choses, sinon la meilleure façon, c'est la prière. Les bénédictions spirituelles s'obtiennent par la prière. C'est en réponse à la prière que Dieu sonde et connaît nos cœurs. Psaume 139, verset 3. C'est en réponse à la prière que nous sommes purifiés des fautes cachées. Psaume 19, verset 13. C'est à la réponse à la prière que Dieu reçoit favorablement les paroles de notre bouche dans Psaume 19, verset 15, ainsi de suite. Alors, c'est comme un peu Dieu et le soleil, et nous sommes comme nous sommes des miroirs. Alors, quand nous sommes en communion avec Dieu, la gloire de Dieu reflète sur les miroirs, et après ça, ça reflète sur le monde. Vous savez, quand vous êtes au soleil, vous avez un miroir, vous le mettez au soleil, il y a un reflet. Un peu comme quand Moïse a passé du temps au Sinaï, alors il est descendu, il a passé du temps avec Dieu dans la prière, il est descendu du Sinaï, et son visage rayonnait de gloire. Alors, c'est très important d'avoir un temps de prière, et c'est pour cette raison que nous allons justement commencer une série sur la prière. On pourrait en parler toute l'année, il y a tellement de choses à dire, mais nous allons justement prendre quelques dimanches pour regarder ce qui est tout le sujet de la prière. 14 raisons de prier. Il y en a plus, il y en a moins. On peut en mettre moins. On peut en mettre plus. j'en ai 14. Pourquoi pas 15? Pourquoi pas 20? Il y en a plus que ça, mais disons que 14, c'est quand même bien. Et ce que je vais dire ce matin, ça va être disponible. Oui, la prédication est disponible sur le site web. Mais il va y avoir un texte quand même disponible sur le site. Si des fois vous voulez avoir les 14 raisons vont être là avec les versets. Il va y avoir quand même une genre de petite un petit rappel sur le site web église-renaissance.com. Alors, la première raison, très évidente de prier, c'est que la prière produit des résultats. La prière produit des résultats, la prière produit des guérisons et la prière produit même des miracles. C'est la seule façon. Un homme de prière a dit, la prière est omnipotente. Elle peut faire tout ce que Dieu fait. Quand nous prions, Dieu agit. Si nous voulons faire beaucoup pour Dieu, nous devons demander beaucoup à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas limité. Dieu se plaît à entendre nos requêtes. Vous savez, quand on a des enfants, et les enfants, l'enfant ou les plusieurs enfants vont venir voir les parents, puis « Papa, peux-tu me donner ça? Papa, peux-tu me donner ça? Papa, peux-tu me faire ci? Papa, peux-tu me faire ça? » Hein? Souvent, on entend seulement ça. « Papa, maman, maman, papa. » Et les parents ne disent pas encore. Oui, souvent, c'est encore parce que ça fait... Mais pour nous autres, à un moment donné, c'est naturel. L'enfant demande tout le temps, tout le temps. C'est la même chose. Et Jean, chapitre 5, verset 16, « La prière du juste a une grande efficacité. » Le pasteur Richard Sipley a dit, « Je prie parce que ça marche. Jésus nous a promis que ça marcherait. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. » Matthieu, chapitre 21, verset 22. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en moi, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » Jean, chapitre 15, verset 7. On peut demander beaucoup de choses à Dieu. Dieu n'est pas... Des fois, les gens pensent qu'on ne peut pas, à un moment donné, on dit, « Ben là, je t'en demande, je t'ai demandé des choses financières, je te demande ci, je te demande ça pour les enfants, je te demande un travail. » Oui, vous pouvez demander. Dieu est là pour ça. Et même si quelqu'un dit, « Ah, je prie, mais je n'ai pas la foi. Je prie, mais je n'ai pas la foi. Ça va-tu arriver? » L'Église de Jérusalem, inspirée du Saint-Esprit, priait pour la libération de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre est en prison. Dieu envoie un ange en exaucement à la prière pour délivrer Pierre de prison. Pierre se présente au lieu de prière et on ne croit même pas que c'est lui. Pourtant, les gens priaient pour la libération de Pierre. Alors, même si vous n'avez pas la foi, vous pouvez prier quand même. Il y avait une jeune femme comme ça qui avait fait un voyage missionnaire en Jamaïque, puis elle avait eu à cœur de prier pour un paralytique. Puis suite à, c'est des choses qui arrivent. Si vous pensez que ça n'arrive pas, oui, ça arrive, ça arrive ici, puis ça arrive à l'extérieur. Suite à sa prière, il s'est relevé, il a été guéri. Elle a été tellement surprise qu'elle est tombée sans connaissance. Pourtant, dans Jean, chapitre 5, verset 16, c'est écrit, « Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Alors, oui, la prière a des résultats. Ne limitez pas vos prières. Ne limitez pas la prière. Puis plus qu'on va prier, plus qu'on va être enclin à prier, on va vouloir plus prier. Deuxième raison, c'est que plus qu'on va vouloir prier, deuxième raison, cela va développer notre caractère. La persistance dans la prière forme notre caractère. Prier un an pour la même chose, vous allez voir, ça va former votre caractère, ça va former votre patience. C'est pas facile, ça prend une discipline. On va trouver ça monotone. Aujourd'hui, la monotonie, ça n'existe pas dans notre société. Avant, les gens étaient plus... Il y avait beaucoup plus de monotonie. Aujourd'hui, on mange ce que l'on veut. On va sur Internet, on a des recettes de cuisine, on mange du thaï, on mange de l'italien, on peut manger du québécois. Donc, ce soir, on va manger du mexicain. On fait les recettes qu'on veut. Il n'y a pas de monotonie dans la... Plus ça va parce qu'il y a tellement de choses, il y a des choses, il y a beaucoup de recettes. Puis les vêtements, c'est la même chose. On a notre garde-robe est plein, on met les vêtements qu'on veut. Quand ça ne fait pas, on s'en achète d'autres. La même chose pour la télévision, il y a toutes sortes de séries télévisées. On n'aime pas une, on en prend une deuxième. Il y a des programmes. Aujourd'hui, on change, on veut tout le temps du changement. On n'est pas obligé de tout le temps avoir la même chose. C'est la même chose, c'est la même affaire dans le travail. Quand ça ne fait pas, aujourd'hui, les gens changent beaucoup d'emploi. On change d'emploi, ça ne fait pas, on fait d'autres choses. On va à une église, ça ne fait pas dans une église, on va à une autre. On n'aime pas on se lasse de tout. On a un cours à l'université, si ça ne fait pas dans une branche, on va aller dans une autre branche. Ce qui n'est pas nécessairement le cas pour la prière, parce que la prière, on revient tout le temps sur la même chose. Puis nous autres, on n'est pas habitués à ça, parce qu'on se lance de tout, on veut toutes sortes de choses. Puis, alors, ça forme notre caractère. Jésus a dit dans Luc, chapitre 18, verset 1, Jésus a enseigné à ses disciples qu'il faut toujours prier et jamais se relâcher. David nous a dit, compte patiemment sur le Seigneur, ressaisis-toi, reprends courage, compte patiemment sur le Seigneur. Il faut être patient dans la prière, ce qu'on n'est pas dans la vie d'aujourd'hui. On veut tout changer, on veut tout avoir, on manque de patience. Alors, ça développe notre caractère. Troisième raison, c'est que la prière est un acte d'adoration qui glorifie Dieu. Eh oui, ça glorifie Dieu. Si on voit, ça arrive de temps en temps que la foudre peut tomber, on va dire que c'est naturel, c'est quelque chose de naturel. Mais si on prend un texte dans l'Ancien Testament, un texte où la foudre a tombé à un endroit très précis, on a dit que c'est un miracle, c'est la gloire de Dieu. Dans 1 Rois, chapitre 18, verset 36, je vous lis le verset. « Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « L'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. » Il est en train de faire une prière. Il dit, « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et après sa prière, « Le feu de l'Éternel tomba et consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Alors, Dieu se glorifie par une prière, même si on ne le voit pas nécessairement, pas comme cela, mais des fois on ne le voit pas, on ne le sent pas, mais Dieu se glorifie. M. Bonds, qui écrit beaucoup de choses sur la prière, qui écrit plusieurs livres, a dit « La prière, la réponse à la prière est la partie de la prière qui glorifie Dieu. » En demandant à Dieu ce qui est impossible aux hommes, on permet à Dieu de se glorifier. Puis, quand Dieu se glorifie sur la terre, du même coup, notre foi est renforcée. Alors, troisième raison, pour glorifier, Dieu se glorifie dans la prière. Quatrième raison, parce que la prière rapproche l'homme de Dieu et Dieu de l'homme. Il faut se parler pour que deux personnes puissent se connaître. Il faut se parler. Alors, la prière, c'est la prière à Dieu. Tu pries Dieu, tu parles avec Dieu. Alors, ça rapproche l'homme de Dieu et Dieu de l'homme. Quelqu'un a dit, « La prière, c'est le moment où le ciel et la terre s'embrassent l'un l'autre. » Psaume 145, verset 18, il est écrit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec vérité. » Je sais que je vous dis beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que je vous dis, il y a beaucoup de références à des versets, mais ça va être sur le site web. Si vous pensez certains versets que je dis, ce n'est pas grave parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, oui, cela rapproche l'homme de Dieu et Dieu de l'homme. Et plus qu'on s'approche de Dieu, plus qu'on est sensible à sa présence et plus on désire connaître sa volonté dans nos prières. Encore une fois, M. Bonds a dit « La familiarité et la proximité avec Dieu donnent de la saveur, de la fréquence, de la précision et de la capacité à la prière. » Et ça, c'est un processus graduel. C'est pas du jour au lendemain. C'est tranquillement, on prie et tranquillement, on se rapproche de Dieu. C'est pas nécessairement, ça prend de la patience. Faut pas penser que parce que on prie pas longtemps, que ça n'a pas d'impact. C'est pas une question de faire un discours, c'est pas une question de faire quelque chose qui est très long. Vous priez une minute, Dieu est content, il vous écoute. Vous priez cinq minutes, Dieu est content. Vous priez une heure, Dieu est content. Je me réfère à un livre sur la prière de M. Torrey. Où il est dit que votre croissance dans la ressemblance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sera exactement proportionnelle au temps et au cœur que nous donnerons à la prière. Je m'exprime ainsi parce qu'il y en a beaucoup qui prient longtemps, mais en y mettant si peu de cœur qu'en fait, il leur faut longtemps pour prier très peu. D'autres, au contraire, peuvent y passer moins de temps, mais prient avec tant de cœur qu'ils obtiennent beaucoup plus par leurs prières brèves que les premiers par leurs prières longues. Alors, ce n'est pas une question de quantité, ce n'est pas une question de c'est certain que c'est une question de qualité, mais vous comprenez que c'est une question de cœur envers Dieu pour la prière. Puis la durée, l'intensité dans la prière ne sont pas en relation directe avec la spiritualité d'un chrétien, mais souvent, ça dépend des circonstances. Jésus a prié la nuit, a prié toute une nuit, parce que le lendemain, il devait choisir ses 12 apôtres. Mais il ne passait pas toutes ses nuits à prier. Il avait vraiment un contexte spécial. Il a besoin de dormir. Alors, c'est pas une question de tout le temps prier. Jacques a dit, quand ça va mal, prie. Quand ça va bien, chante des cantiques. On n'a pas besoin non plus de composer toutes nos prières, que ça soit fait d'avance. Vous savez, des fois, les cantiques, le dimanche matin, c'est des cantiques qu'on a fait d'avance. C'est pas des cantiques comme ça. On les a préparés, on les a fait d'avance, puis on les amène devant le Seigneur. Alors, on peut faire des prières préparées d'avance. Comme dans Psaume, on peut prendre le livre de Psaume, c'est un livre de prières. David écrit, il y a beaucoup de prières à Dieu dans le livre de Psaume, et on peut lire le livre de Psaume comme un livre de prières. Alors, David Simmons a dit, on peut avoir quelques préjugés contre les prières écrites, toutefois, elle nous enseigne à prier de façon constructive. OK. Cinquième raison pour prier, la prière nous aide à connaître Dieu. Le plus grand résultat de la prière n'est pas nécessairement la délivrance du mal ou l'obtention d'une chose désirée, mais la connaissance de Dieu. C'est avec la prière qu'on reçoit un avant-goût des choses de Dieu, de la vie spirituelle, du Saint-Esprit, qu'on peut vraiment sonder la profondeur du cœur de Dieu et qu'on peut avoir une révélation de Dieu et vraiment avoir une connaissance et pas avoir notre propre connaissance, notre propre vraiment vision de Dieu, mais c'est par la prière que Dieu va se révéler, qu'on qu'on va aller quelque chose avec plus spirituel et non charnel. Alors, la prière nous aide à connaître Dieu. Sixième raison. Il y en a 14, je vous l'ai dit. Endormez-vous pas. C'est qu'on a un libre accès auprès de Dieu. Quand on est chrétien, on a un libre accès auprès de Dieu, ce que beaucoup de gens n'ont pas. Éphésiens, chapitre 2, verset 18. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plutôt, l'Épître aux Romains, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, nous sommes sauvés par la colère de Dieu, de la colère de Dieu. Proverbe 15, verset 29, « L'Éternel est loin des méchants, mais il écoute la prière des justes. » Il nous écoute. Des fois, on est avec notre conjoint, puis on lui parle, puis on lui dit, « Tu m'écoutes-tu, là? Tu m'écoutes-tu? » Puis des fois, il ne t'écoute pas pantoute, là. Mais tu ne peux pas dire ça à Dieu. Dieu va t'écouter. Même si tu as tort, même si tu as raison, c'est une question de cœur, tu te présentes devant Dieu, tu es certain que Dieu va t'écouter. Alors, amen, si vous avez de la difficulté à vous faire écouter par votre conjoint, vous... alors priez. Là, vous allez être sûr, vous allez être entendu. Hébreux, chapitre 10, verset 19, on a une libre entrée dans le sanctuaire. Alors, on a une libre entrée dans le sanctuaire, on a une communion avec Dieu. Il n'y a rien qui nous sépare. Il n'y a rien qui nous sépare avec Dieu. Alors, c'est pour ça que c'est plus facile. Ce n'était pas le cas dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, il y a une voie qui a été faite, le voile était déchiré et on a un libre accès auprès du Père, ce que la Bible nous dit. La septième raison, Dieu déborde d'amour quand on le prie. Il n'est pas en colère quand on le prie. Psaume, c'est écrit, psaume 86, verset 5, « Tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. » Puis quand on prend le texte en hébreu, parce que c'est dans le psaume, vous savez que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, alors, dans plusieurs traductions, c'est différent. Dans la traduction, dans la Colombe, c'est écrit « riche en bienveillance ». Vous savez que la Bible, il y a eu plusieurs traductions, il y a plusieurs sortes de Bibles. Alors, Colombe, l'expression pour dire « tu es plein d'amour », c'est « riche en bienveillance ». Dans la Tob, c'est écrit « riche en fidélité ». Français courant, « tu es généreux ». Dans la traduction d'Arby, « grand en bonté ». Dans une autre traduction, c'est écrit « débordant de bonté ». Dans la Crampon, c'est « plein de compassion ». Dans la Linéaire, « plein de miséricorde ». Dans une autre traduction, « très miséricordieux ». Tout cela ensemble, vous mettez tout ça ensemble, là, ça fait de l'amour, c'est beaucoup d'amour. Vous allez avoir une idée des sentiments qu'éprouve Dieu. Alors, quand on s'approche de Dieu, au nom de Jésus, Dieu nous manifeste son affection, nous pardonne nos fautes, nous manifeste généreusement sa bonté. Alors, Dieu est bon, Dieu est amour. Encore une fois, tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Alors, Dieu est un Dieu d'amour. Huitième raison pour prier, la prière approche l'homme de la personne pour laquelle il prie. Si vous priez pour quelqu'un, vous allez vous rapprocher de cette personne-là. La prière qu'on appelle d'intercession, selon l'inspiration de l'Esprit, va vraiment ouvrir ton cœur pour la personne à laquelle tu pries. Monsieur, le missionnaire Ralph Challis a dit, « Plus que tu pries pour un homme, plus que tu l'aimes. » On le voit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 2. « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. » Un petit peu plus loin. « Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. » Alors, vous voyez qu'on Paul disait la proximité avec l'Église de Thessalonique, plus que Paul disait vous étiez chers, vous étiez chers à nos yeux. Alors, plus que vous priez pour quelqu'un, plus que vous allez vous rapprocher de quelqu'un. Alors, s'il y a des gens difficiles que vous avez de la difficulté, vous avez des gens difficiles à supporter, priez pour eux. C'est-tu biblique de prier pour quelqu'un qu'on n'a pas de lien, qu'on veut rien savoir? Est-ce que c'est biblique? C'est très biblique. Matthieu 5, chapitre 5, verset 44, Jésus a dit « Priez pour ceux qui vous persécutent. » Alors, vous allez surmonter le mal par le bien en priant pour quelqu'un que, justement, vous avez un petit peu de difficulté. Alors, il y a un rapprochement quand on prie pour quelqu'un. Neuvième raison pour prier, Dieu nous appelle à combattre le mal par la prière. Comprenez-moi bien, Ésaïe chapitre 19, verset 11, je vais vous lire le contexte, pas le contexte, mais le texte. Nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes, nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, il est loin de nous. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme et s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, l'attente des hommes, c'est quoi dans ce verset-là? Je fais ça vite. C'est que il y a quelque chose, il y a de la misère. On voit qu'il y a de la misère. Nous gémissons comme des colombes. Le peuple a de la difficulté. Et l'homme dit, pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Est-il indifférent à l'injustice sur la terre? Et l'homme se pose la question dans ce texte d'Ésaïe, chapitre 19. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Alors, l'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Mais il voit d'autres choses. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, Dieu est indigné. Pourquoi que Dieu n'intervient-il pas? Parce qu'il n'y a personne qui prie. Il n'y a personne qui intercède contre le mal. Combattre le mal par la prière. Dieu va s'étonner. Dieu ne s'étonne pas dans la Bible. Dieu a écrit la Bible. Quand Dieu s'étonne, souvent, c'est par la prière. Le manque de prière, Dieu va s'étonner. Dans Ézéchiel, il dit, je recherche quelqu'un je recherche une personne qui pourrait prier afin que je ne détruise pas la ville. Je recherche, mais je n'en trouve point. Combattre le mal par la prière, Dieu veut qu'on combatte le mal par la prière. Et Dieu s'étonne qu'il n'y ait personne qui prie. Puis le verbe s'étonner en hébreu, encore une fois en hébreu parce qu'on est dans l'Ancien Testament, c'est le mot shamem, qui non seulement c'est être étonné, mais être désolé, être dévasté. Un signe de grande douleur et d'incompréhension par rapport à une situation. C'est comme si le gouvernement, tu t'attends à avoir un chèque du gouvernement et tu reçois l'enveloppe chez toi, tu vois que c'est le gouvernement, tu dis « Ah, mon chèque arrive », en fin de compte, tu lui dois de l'argent. Là, tu dis « Voyons, là, tu es étonné, tu es dévasté ». C'est la même chose, c'est une petite comparaison avec Dieu. Alors, Dieu s'étonne que les gens ne prient pas. Alors, il faut, neuvième raison de prier, combattre le mal par la prière. C'est ce que Dieu demande. Dieu cherche des hommes comme David. le roi David qui intercédait selon son cœur. Et Dieu disait, interviens, Seigneur, que l'homme ne soit pas le plus fort. Traîne-les devant ton tribunal. Seigneur, fais-leur peur. Il dit, tu regardes cependant car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. Ainsi de suite. C'est, David priait beaucoup. Alors, si vous voulez souvent prier, et justement, comme j'ai dit tout à l'heure, des prières faites d'avance, vous pouvez aller dans Psaume, les prières de David. C'est vraiment, là, c'est bénissant. Dixième raison de prier, parce que la prière nous rappelle notre dépendance de Dieu. On dépend de Dieu. Un homme de Dieu a dit, n'oublions pas que la plus grande chose que nous pouvons faire pour Dieu, pour les hommes, c'est de prier. Parce que nous pouvons accomplir bien plus par nos prières que par notre travail. C'est certain que là, on parle de contexte de prière là, ce matin. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, on va travailler, on va faire des choses, mais il faut prier, il faut demander, et ça va avec tout notre quotidien. Plus qu'on apprend à connaître Dieu, plus qu'on prend conscience de la présence de Dieu, plus qu'on dépend de lui. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On dépend de Dieu. L'homme dépend de Dieu. Même si l'homme dit « Je suis capable de tout », ce n'est pas vrai. L'homme dépend de Dieu. Psaume, encore une fois, psaume 18, verset 33, « C'est lui qui me donne la force d'agir, qui fait réussir ce que j'entreprends. C'est lui qui m'entraîne au combat et m'aide à tendre l'arc le plus puissant. Seigneur, ta main droite me soutient comme un bouclier, tu me protèges et tu me sauves, tu réponds à mes appels et tu me rends fort. » C'est ce que David disait. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5, « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Même la prière vient de Dieu. Dieu a dit, je répandrai un esprit de grâce et de supplication, ils tourneront les regards vers moi. » Zacharie, chapitre 12, verset 10. Dieu désire la prière des hommes, et même il va nous humilier pour qu'on puisse prier. Puis il va susciter le Saint-Esprit qu'on puisse prier. Parce que l'homme, dans sa nature charnelle, n'aime pas prier. On ne parle pas souvent de prière dans les 5 à 7. Dans les petites réunions familiales, on ne parle pas souvent de prière. Ce n'est pas un sujet qu'on parle beaucoup. L'homme n'aime pas, par sa nature, n'aime pas prier. Après la chute d'Adam et Ève, savez-vous combien de temps ça a pris pour que l'homme prie? Des fois, tu dis, oh, j'aurais peut-être dû prier, j'ai manqué de prière depuis les 6 derniers mois. Ça a pris 235 années. Qu'on puisse prier. Genèse chapitre 4, verset 26, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Il calcule à peu près que ça a pris 235 ans avant qu'on puisse invoquer le nom de l'Éternel. C'est pour ça que souvent que c'est le Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va nous pousser à prier. Philippiens chapitre 2, verset 13, Dieu est celui qui produit en l'homme le vouloir et le faire. C'est le Saint-Esprit qui va te pousser à prier parce que souvent, on n'est pas enclin à prier. Et le Saint-Esprit va nous pousser à prier selon la volonté de Dieu. Et souvent, on doit interroger le Saint-Esprit pour savoir comment prier selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, versets 26 et 27? De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est par l'Esprit, c'est l'Esprit qui te pousse à prier, qui dit parce que on n'est pas capable, c'est difficile. S.D. Gordon a dit, la prière, ce n'est pas persuader Dieu, Elle n'influence pas le plan de Dieu et ce n'est jamais gagner Dieu à notre cause. C'est pas ça. C'est qu'on soit dans la même volonté, dans le même esprit que Dieu. On ne dépasse pas Dieu par nos prières. Et ça peut arriver souvent que l'Esprit de Dieu va réveiller des gens en pleine nuit pour qu'ils prient d'une façon, d'une manière spécifique pour un événement qui est en train de se passer. Alors, notre dépendance de Dieu, nous avons besoin de Dieu. Onzième raison, on arrive. Parce que nous sommes co-ouvriers avec Dieu. On travaille avec Dieu. Moi, je travaille avec Dieu. Je travaille pour Dieu. Mon employeur, c'est Dieu. Amen. Ah, moi, j'aime ça. Mon employeur, c'est Dieu. Il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est pas grave. Mon employeur ne fera pas faillite. Mon employeur ne fermera pas les portes. Mon employeur va me réprimander, mais je travaille pour Dieu et ma récompense est au ciel. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Dieu avait en passé notre partenariat dans la prière quand il nous a choisis. C'est ce que M. S.D. Gordon a dit. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 10. Regardez ce que Paul dit. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistant de vos prières afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Alors, ce que Paul dit, il dit en même temps que, oui, toute délivrance va arriver de vos prières, de Dieu, mais avec vous qui priez. Puis dans la même pensée, il va dire aux Philippiens, sa libération de prison va dépendre de l'assistance du Saint-Esprit et des prières des chrétiens. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 9, verset 36, il ordonne à ses disciples de prier afin que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Parce que Dieu a besoin de quelqu'un pour envoyer des gens dans la moisson, des ouvriers. Dieu a besoin de personne. Mais Dieu demande d'être co-ouvrier avec lui, un partenariat. Dieu veut nous impliquer justement dans l'ouvrage qu'on a à faire. Et c'est tout le long de la Bible, c'est comme cela. Si Dieu était pour prendre soin quand même de nous sans nos prières, il ne prendrait pas la peine de nous exhorter à prier pour les autres. Si Dieu était capable de tout faire, qu'il le ferait de toute façon, il ne nous demanderait rien. Mais Dieu demande qu'on puisse le faire avec lui. C'est un travail d'équipe. Dieu peut tout faire, mais il demande. On est co-ouvriers. Dans la nuit du dimanche, mois d'avril, dimanche 1912, il y a une femme qui se réveille en pleine nuit. Puis, vraiment, elle a à cœur de prier. Puis elle prie toute, elle a vraiment une obsession, elle est tendue. Puis elle a vraiment à cœur, c'est très fort en elle. Alors elle prie jusqu'à 5 heures le matin. Puis après ça, à 5 heures le matin, il y a une paix, puis elle se rendort. Pendant ce temps-là, son mari, qui était colonel, était sur le Titanic cette nuit-là. Et c'est cette nuit-là qu'il y a eu un naufrage. Et son mari était en train de mettre les canots de sauvetage à la mer. Et vous savez que sur le Titanic, les premières personnes qui ont embarqué dans les canots de sauvetage étaient les femmes et les enfants. Alors lui, il a déployé avec d'autres hommes tout ce qu'il fallait faire pour que les canots soient à la mer. Et lui a resté sur le navire et il s'attendait, il pensait à son épouse, puis il disait, écoute, adieu. T'sais, il aurait aimé ça lui dire adieu, mais... Alors le navire a coulé, et lui a coulé en même temps. Il a crié, et à un moment donné, Il était dans l'eau, puis il a réussi à nager, puis à se sortir de l'eau, puis il a vraiment crié toutes ses forces, puis il y avait un bateau, il y avait un bateau de sauvetage, un radeau qui était là, et il a réussi à nager dans l'eau froide et à se sortir de l'eau et embarquer dans le canot de sauvetage. Et il était 5 heures du matin. Alors, on est ouvrier. La femme a été ouvrière. Son épouse a prié sans le savoir pour son mari et son mari était sauvé au même moment. Douzième raison de prier, Dieu est notre Père. C'est normal qu'un fils aille voir son père pour qu'il lui vienne en aide. Alors, c'est la même chose pour le Père. Dieu est notre Père. Matthieu, chapitre 6, verset 9, la prière qui nous a demandé de prier notre Père qui est aux cieux. Alors, Dieu est notre Père, et c'est pour cela que c'est vraiment, c'est un enseignement que Jésus nous montre afin d'adresser nos prières à Dieu. Treizième raison, c'est que s'abstenir de prier quand la situation le demande, c'est pécher contre Dieu. 1 Samuel, chapitre 12, verset 33, « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. » Alors, il faut faire bien attention ici, c'est vraiment quand la situation le demande et que vous avez à cœur et que vous ne voulez pas, et c'est vraiment spécifique, je ne dis pas que si vous ne priez pas, vous péchez, là, c'est pas ça que je veux dire, mais vraiment, sachant qu'il faut le faire et vous ne le faites pas, c'est pécher contre Dieu. Jacques a dit, « Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas comme un péché. » Jacques, chapitre 4, verset 17. Amen. La quatorzième raison de prier, la dernière, c'est pour surmonter nos faiblesses. Quand on ne sait plus quoi faire, qu'est-ce que tu fais quand tu... Vous savez, les gens, des fois, ils sont dans vraiment quelque chose qui arrive, puis qu'est-ce qu'on fait? On prie. Qu'est-ce que j'ai vu? Il y a des événements qui arrivent, là, on voit ça dans les journaux, télévision, sur Internet, que les gens ont dit, « Qu'est-ce que vous avez fait? » Puis là, on dit, « On a prié. » Quand tu ne sais plus quoi faire, tu pries. Parce que Jésus a dit, « Veillez prier, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alors, il faut prier. Il faut prier parce qu'on n'est pas tout souvent disposé, on est faible. On est faible. En tant qu'homme, on est faible face aux choses de Dieu, face à la vie, face à la mort, face à ce qui arrive, face à les choses les choses de tous les jours. On ne peut pas toujours faire face à tout ce qui nous arrive. Alors, on a besoin de... On est faible. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu ne sais plus quoi faire? Seigneur, fais quelque chose. Je ne suis plus capable. Alors, surmonter nos faiblesses afin d'être plus fort, afin d'avoir une espérance. Alors, je termine avec cet enseignement avec une pensée encore de M. S.D. Gordon qui a dit, on peut faire plus que prier après avoir prié. Mais on ne peut faire plus que prier avant d'avoir prié. Je vais vous le répéter parce que même moi, là, c'est pas clair. On peut faire plus que prier après avoir prié. Mais on ne peut faire plus que prier avant d'avoir prié. Alors, la croissance spirituelle, votre croissance spirituelle, puis celle de l'Église, seront proportionnelles au temps que vous passerez et que l'Église passera à prier. Tous les grands hommes ou femmes de Dieu ne sont pas plus grands que leur vie de prière. Alors, début 2015, j'avais vraiment à cœur de parler sur le sujet de la prière. Aucun grand réveil religieux n'a commencé sans la prière. Un des grands réformateurs, John Knox, qui un grand réformateur de l'Écosse, quand l'Écosse a fait une coupure avec le catholicisme au 16e siècle, c'est quelqu'un qui priait beaucoup. Et tous les gens qui ont vu des choses dans leur vie, une croissance spirituelle, que ce soit soit petit ou grand, il n'y a rien qui est arrivé sans la prière. Alors, ma vision pour 2015, prenons le temps de prier. Si on a le temps de regarder le sport, si on a le temps de faire des commissions, d'aller au centre d'achat, si on a le temps pour plusieurs choses, on a le temps pour prier. Amen. Merci Seigneur.